Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez pu apprécier cette première partie de culte que nous avons rendue à Dieu. Et je vais commencer cette prédication par vous poser deux, trois petites questions sur votre culture générale. Nous avons quelques expressions en français. Et à partir de ces expressions, je vais vous demander, en fait, qu'est-ce qui est la mère de tous les vices ? La paresse ? Ah ! L'oisiveté. Effectivement, il y a une expression française qui dit « l'oisiveté est mère de toutes les vices ». De tous les vices. Deuxième question, du même type. Qui est la mère ou qu'est-ce qui est la mère de toutes les vertus ? La patience. La patience est mère de toutes les vertus. Exactement, exactement. Et je vais continuer par vous poser une troisième question, peut-être un petit peu plus difficile, je ne sais pas. Qui là concerne une expression ou quelque chose qui se disait en fait au temps des apôtres. Et donc, qu'est-ce qui est la racine de tous les mots selon la Bible ? L'argent. Ah, vous êtes très très fort. Hein. Effectivement, c'est dans une lettre de Paul à Timothée où il dit qu'effectivement, la racine de tous les mots, c'est l'argent. Et ce matin, nous allons donc parler de l'argent, de sa place dans nos vies et dans sa place dans nos vies de chrétiens en relation avec Dieu également. Alors vous aurez remarqué que le sujet n'a rien à voir avec la fête des mères, mais voilà, c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est un sujet très très riche. L'argent, ce que nous en faisons et la place qu'il a par rapport à Dieu, c'est un sujet très très riche et je n'ai pas pu voir tous les textes qui traitent de cette question suivant différents angles parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Nous ne verrons pas, par exemple, l'histoire du jeune homme riche qui rencontre Jésus. Il y a plein d'enseignements, mais nous ne pourrons pas voir ça. Mais nous allons donc commencer par ce premier texte donc, qui se trouve dans la première épître de Paul à Timothée. Et en fait, on va pouvoir. Voilà, il est affiché, merci. Alors, juste précédemment, déjà, Paul parle de l'argent et de la piété. Et il continue en disant. Donc c'est 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 11. Il continue en écrivant cela. « Oui, elle est d'un grand profit, la piété, pour qui se contente de ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et de même, nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. La racine de tous les maux, donc, en effet, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont transpercés l'âme de tourments multiples. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Effectivement, Paul aura donc écrit « La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. » Pour préparer cette méditation, cette prédication, j'étais confronté à une question. Dans quelle mesure je dois être radical pour cet enseignement ? Alors, je précise, non pas dans quelle mesure dois-je en faire des tonnes par rapport à l'argent, mais dans quelle mesure je dois être aussi radical que l'enseignement biblique, en fait. Nous venons de l'entendre dans la lettre de Paul à Timothée. Paul n'y va pas par le dos de la cuillère, il y va franchement. Et ma question était, peut-on encore entendre ce type d'enseignement aujourd'hui ? Est-on encore en mesure d'accepter et de comprendre en profondeur l'enseignement que Paul envoie à Timothée ? Nous allons voir un peu plus dans le détail le texte que nous venons de lire. En fait, ça ne demande pas non plus trop de temps, il n'y a pas d'interprétation possible, ce sont juste des enseignements qui sont clairs. Puis je me permettrai de continuer en fait par quelques réflexions sur la place de notre argent dans notre monde aujourd'hui. Mais commençons donc par ce texte. Dieu, en fait, n'a rien contre l'argent en tant que tel. Comme le révèle ce texte de Paul, c'est l'amour de l'argent qui pose problème. C'est quand l'argent devient, en fait, pour nous l'objet d'une attention particulière qui n'a pas lieu d'être. L'argent, initialement, est juste un outil. C'est un outil qui facilite les échanges de marchandises ou de services entre personnes, ni plus ni moins. Le problème est lorsqu'il devient autre chose qu'un outil pour nous. Alors certains peut-être se disent « Ouf, Moi, j'ai pas de problème, je ne suis pas amoureux de l'argent, ça ne me concerne pas, je suis tranquille. On va continuer un petit peu. On va continuer donc, on va reprendre ce texte, donc le verset 6 de ce chapitre 6 de la lettre, de la première lettre de Paul à Timothée. Oui, elle est d'un grand profit, la piété, pour qui se contente de ce qu'il a. Il est important, il est intéressant de noter que Paul, là, met en opposition quasiment la piété avec l'amour de l'argent, ou le contentement de ce que l'on a. Il utilise d'ailleurs, pour la piété, un vocabulaire que l'on utilise actuellement pour tout ce qui concerne la finance. La piété est un profit. Ainsi, la piété apporte quelque chose à celles et ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Et l'amour de l'argent concerne également, concerne également ceux qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. La piété, le bénéfice, le profit de la piété peut être annulé ou amoindri par l'amour de l'argent. Et l'amour de ce qu'il a, ou se contenter de ce qu'il a. Qui d'entre nous aujourd'hui peut se dire « je suis complètement satisfait de ce que j'ai » Il y en a, je ne suis pas en train de vous dire que tous nous en voulons plus, mais c'est une vraie question dans notre société de consommation. Qui peut se dire sereinement « oui, finalement ce que j'ai, j'en suis content, et je n'en veux pas plus pour demain ou pour après-demain. Ce que j'ai me suffit. » Quoi qu'il en soit, Paul nous met en garde. Si nous ne savons pas nous contenter de ce que nous avons, il est possible que nous perdions même le bénéfice de notre piété. Il est possible que nous perdions même le bénéfice du temps que nous allons passer avec Dieu, dans la prière, dans le chant, dans la méditation. Ça, c'est un enseignement vraiment radical de Paul. L'amour de l'argent peut nous faire perdre le bénéfice de notre piété. Ensuite, Paul, dans son texte, nous donne une clé très importante, en fait, pour avoir le bon état d'esprit par rapport à l'argent ou par rapport à la satisfaction de ce que l'on a. C'est au verset 7. « En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, de même, nous n'en pouvons rien emporter. » Paul la remet chaque chose à sa place. Il précise ce que doit être l'objet de notre attention, l'éternité. L'éternité et non pas l'argent ou les richesses que nous avons. Il nous rappelle, ce qui est très important, que lorsque nous sommes arrivés sur cette terre, nous n'avions rien, et que lorsque nous en repartirons, nous n'aurons non plus rien. C'est basique, mais il pense important de le rappeler. Il nous dit qu'en fait, il est donc vain de se concentrer sur l'accumulation des richesses, parce qu'au final, nous ne repartirons avec rien de tout ça. Ce point, en fait, le fait de se concentrer sur l'éternité et de ce que nous emporterons avec nous dans l'éternité est important. Et il nous permet vraiment, lorsqu'on y revient régulièrement dans les choix que nous avons à faire, il nous permet vraiment d'avoir une attitude juste dans nos décisions. En fait, c'est un point que nous avons partagé il y a quelques semaines avec notre groupe de prière à Fontaine-Michalon. C'est un coup de pub. Donc la place, effectivement, enfin ce réflexe de bien se positionner, qu'est-ce qu'il y aura dans l'éternité pour moi, qu'est-ce que je vais emporter dans l'éternité. Et c'est en fait une question qui m'a beaucoup aidé depuis, à me caler sur les décisions à prendre dans ma vie. Je me la remémore régulièrement et je peux vous assurer vraiment que ça clarifie souvent les choix que j'ai à faire. Paul continue. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Là, ça fait vraiment mal, pour moi au moins. Paul vient de nous expliquer que se contenter de ce que l'on a est important. Et là, il précise que se contenter de ce que l'on a est important et cela, concerne le vêtement, les vêtements et la nourriture au minimum. Allez, sous nos latitudes, on va être sympa, on va rajouter la maison. Il fait froid, avoir un toit sur la tête, c'est également important et c'est également un besoin primordial. On peut donc dire que au-delà de la nourriture, des vêtements et d'un toit, tout est superflu et on devrait pouvoir s'en contenter. dans notre société, le confort minimum est très très au-delà de ça. Vous serez d'accord avec moi. On pourrait y rajouter la voiture, la télévision, la machine à laver, le réfrigérateur, enfin tout ce que vous voulez, mais dans notre société, aujourd'hui, tout cela est considéré comme basique. On ne considère plus ça comme étant du confort. Et pourtant, non, Paul nous rappelle juste la nourriture, de quoi nous vêtir. Alors, on ne parle pas de mode, hein, on est d'accord, hein, quand il parle de vêtements. Et peut-être donc un toit. Je nous laisse quelques instants avec ce cadre que Paul nous donne sur ce qu'est les richesses qui sont nécessaires et suffisantes. Alors, il n'est dit nulle part qu'il ne faut pas avoir d'argent. Paul nous parle là de la satisfaction de ce que nous possédons. Une fois que nos besoins de base sont couverts, nous sommes appelés, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous sommes appelés à apprendre à nous en satisfaire. Pour le coup, nous sommes tous concernés sans exception. Il est important aussi de noter que Paul parle ici également des biens et pas seulement de l'argent. Alors pour ceux qui se disaient « moi j'ai pas de problème avec l'argent », il y a là donc une deuxième dimension. Les biens, en fait, lorsqu'il parle de ce sujet, les biens et l'argent, pour lui c'est la même chose, en fait. Il ne fait pas la différence. Ainsi que nous soyons attirés par l'argent en tant que tel, que nous ayons envie d'avoir un gros compte en banque, ou que nous souhaitions avoir toujours plus de biens, toujours acheter, toujours posséder plus, en fait, Paul nous dit, attention, attention, il y a là un vrai risque. Parce que si nous en voulons toujours plus, et donc Paul continue dans sa lettre à Timothée, il dit cela, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ce que Paul nous dit là, c'est que le risque, c'est juste de passer à côté du plan de Dieu. Alors, il ne parle même pas de péché. Non, Paul nous parle là du salut. Il ne peut pas y avoir plus important risque que ça. Paul nous dit, si vous prêtez trop d'attention aux richesses et à l'argent, vous risquez juste de vous perdre, spirituellement. Personne n'est à l'abri de ce risque. Puisque Paul écrira un peu plus loin que cela concerne également des personnes converties. Au verset 10, il écrit « Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments multiples. » Il y a donc bien une possibilité, un risque, qu'étant sauvés, convertis, enfants de Dieu, nous perdions tout ça par l'attrait de l'argent et des richesses. Si certains se posaient la question, une fois qu'on est baptisé, sauvé, est-ce qu'on peut perdre cela? Eh bien oui, Paul nous dit, on peut perdre le salut, ne serait-ce qu'au moins par l'attrait de l'argent, à cause de notre goût pour l'argent et pour les possessions. Et Paul donne une consigne, un encouragement à Timothée, presque un ordre, un commandement, au verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Paul donne là donc un commandement à Timothée. Face à ce risque d'être attiré par l'argent, il faut donc l'identifier au minimum, et c'est pour ça que ça me semble intéressant aussi de partager ça avec vous ce matin. Face à ce risque, fuis ces choses. Il part donc d'une démarche active. Prends conscience de là où tu en es, fais le point dans ta vie de la place de l'argent et des possessions, et si tu as un problème avec ça, fuis ça. Et cours après plutôt toutes les bonnes choses avec Dieu. Juste une petite parenthèse. En parlant de possession, vous avez probablement déjà entendu parler de mammon, qui est effectivement un terme employé dans la Bible. Et peut-être que vous avez en tête que mammon est un démon qui peut nous posséder. Alors, ce n'est pas aussi clair que ça dans la Bible. Juste une petite parenthèse pour être clair là-dessus. Mammon, en fait, est une translittération du mot « richesse » en araméen. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Paul écrit en grec, il emploie le mot « mammon » tel qu'il est dit, en fait, à l'époque, là où il habite. « Mammon », c'est donc le mot « richesse » en araméen. Il ne s'agit donc pas d'une idole ou d'un démon qui est identifié et connu à son époque. Il n'apparaît que deux fois, en fait, enfin, dans deux passages dans la Bible. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 24, c'est Jésus qui l'emploie. Et également, Luc nous raconte que Jésus l'a également employé donc au chapitre 16, les versets 9, 11 et 13, pour mémoire, si vous avez envie de les voir. Donc Mammon n'est pas nécessairement une divinité païenne. En revanche, c'est assurément quelque chose qui peut être une domination sur notre vie, même si elle n'est pas spirituelle. C'est quelque chose qui peut nous éloigner de Dieu. Ça peut être, pour nous, à coup sûr, une idole, même si on ne parle pas de puissance spirituelle, de démon. Parce que Jésus dira, donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres », c'est un texte qui est très connu, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous sommes donc tous devant un choix face à l'argent. Tourner notre attention, notre énergie, notre esprit, notre cœur, soit vers l'argent, soit vers Dieu. Ce que nous enseigne la Bible, enfin ce que nous a enseigné Jésus et ce qu'il nous a rapporté dans la Bible, c'est qu'on ne peut pas faire l'un et l'autre. Il y a donc un choix à faire. Juste une petite question pour nous aider à nous situer, peut-être. Une question pratique que je pose donc à chacun. En fait, qui m'a été posée. Combien de temps par semaine pensons-nous à l'argent, chacun d'entre nous? Combien de temps par semaine pensons-nous ou travaillons à la gestion de notre compte en banque, par exemple, à nos économies, à nos placements, à notre niveau de salaire, à celui que l'on a par rapport à notre collègue ou à notre voisin? Combien de temps passons-nous à penser au montant que nous allons avoir durant notre retraite? Alors, je ne dis pas que toutes ces questions ne sont pas légitimes, que l'on ne se trompe pas. Mais il est intéressant de faire le bilan dans nos vies de l'énergie, du temps que nous passons pour toutes ces questions, à comparer avec le temps que nous passons avec Dieu, par exemple. Juste pour que chacun puisse se positionner. Pour, en fait, pour témoigner, lorsqu'une personne a posé cette question, je me la suis posée, et je me suis rendu compte, alors j'avais à l'époque 2-3 000 euros que j'avais dans un compte PEA, et puis voilà, je boursicotais, quoi. Pour moi, c'était un jeu, enfin, vous le prendrez comme vous voulez, mais pour être honnête, pour moi, c'était un jeu. Et je me suis rendu compte que, en fait, tous les jours, je passais du temps pour vérifier où j'en étais. Ben oui, parce que c'était un jeu. Donc, je voulais voir où j'en étais. Et finalement, je me suis rendu compte que je passais énormément de temps et d'énergie là-dessus tous les jours. Et lorsqu'on m'a posé la question, je me suis dit, ah oui, quand même. Bon, j'ai tout vendu, j'ai tout fermé, parce que, enfin, voilà, il y avait vraiment quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir d'action ni quoi que ce soit. Mais juste que pour moi, franchement, j'y passais trop de temps. Franchement, je passais trop de temps pour cet argent que j'avais en action. Donc, j'ai décidé de tout fermer. Il m'a semblé beaucoup plus sain. J'ai peut-être encore d'autres choses à voir à ce sujet. Hein. Peut-être pas fini sur le chemin. Continuons encore. Aujourd'hui, le texte que nous venons de lire, en fait, cette lettre de Paul à Timothée, a donc été écrit ce qu'on appelle la période de l'Antiquité, hein, pour nous. Très, très loin du capitalisme que nous vivons aujourd'hui. L'argent dans notre monde est devenu pour beaucoup un but en soi, complètement décorrélé de nos besoins matériels. Ça n'a plus rien à voir pour certains. Nous vivons dans une époque où le capitalisme est vraiment galopin, sans limite. On arrive à des extrêmes. Nous avons une concentration des richesses mondiales dans les mains de quelques personnes. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a, je crois, à peu près entre 80 et 90 personnes qui ont autant de richesses que une moitié de l'humanité la plus pauvre. C'est-à-dire qu'il y a 80 ou 90 personnes qui ont autant de richesses que les 3 milliards de personnes les plus pauvres dans le monde. Et ce nombre-là se réduit de plus en plus. C'est-à-dire que la richesse se concentre de plus en plus entre les mains de quelques personnes. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'avant, c'était mieux. Hein. Il y a toujours eu des écarts et des aberrations en la matière. C'était pas nécessairement mieux avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des écarts de richesses considérables. Certaines personnes accumulent des richesses qui dépassent l'entendement. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils pourraient s'acheter ou s'offrir. Ils sont même incapables de tout dépenser et de profiter de ce qu'ils ont acheté. C'est juste impossible. Il s'agit là d'accumuler pour accumuler. Juste pour peut-être grimper ou gagner des places dans le classement tous les ans que nous avons des plus grandes richesses dans le monde. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec le fait d'acheter. C'est juste accumuler pour accumuler l'argent devient un but en soi. Et il balaie dans bien des cas toute considération morale. Alors je ne parle même pas de la transgression des lois. Je parle de ce qui est uniquement moral. Certains se cachent derrière le fait que ce qu'ils font est parfaitement légal, en oubliant totalement le côté moral. Il y a quelques années de ça, vous devez vous en rappeler, il y avait un gros problème pour les matières premières alimentaires, ce qui créait des émeutes en Égypte parce que le pain devenait très très cher, uniquement parce que des financiers spéculaient sur ces matières premières. Et donc il y avait d'un côté des gens qui ne pouvaient plus se nourrir en Égypte, ce qui créait des émeutes, des problèmes sociaux, et ils avaient interrogé une personne donc à Paris, ça m'avait vraiment choqué. C'était un gars donc, qui faisait des placements pour ses clients lui donnaient de l'argent, son but c'était donc de les placer pour faire gagner de l'argent à ses clients. Et donc les matières premières augmentaient, alimentaires, et donc il achetait des matières premières parce qu'il savait qu'il allait pouvoir les revendre plus cher. Donc gagner de l'argent, faire plaisir à ses clients, et donc s'enrichir lui-même. Et le journaliste lui avait dit, mais enfin, quand même, ça crée des problèmes, quoi. Il y a des gens qui ne peuvent plus manger. Et ce gars-là, qui était très gentil, hein. Ça n'avait rien à voir avec un bandit, le regard méchant, mal rasé ou quoi que ce soit. Un gars très gentil, costard cravate, souriant, très aimable. Il dit, moi si demain on me l'interdit, j'arrêterai de le faire. Hein. Il ne se posait même plus les questions, mais quelles sont les conséquences de mes actes? Toute considération morale était balayée par cet appât du gain, tout simplement. Alors on peut opposer ce système capitaliste, et c'est quand même important de le savoir, au projet qu'avait Dieu pour la répartition des richesses. Alors, on ne va pas le lire, parce que c'est d'une part très long et puis un peu fastidieux, mais je vous inviterai à lire, si vous êtes intéressé, les chapitres 25 et 27 du Lévitique, où Dieu là explique, et c'est une loi qu'il a donnée au peuple d'Israël, que pour tout achat ou vente de propriété d'une famille à l'autre, au bout de 50 ans maximum, l'année du jubilé, qui donc arrivait tous les 50 ans, la propriété qui avait été vendue revenait à la famille initiale. C'était la même chose pour un juif qui se vendait, enfin pour un israélite, qui se vendait comme esclave. Ça se faisait parfois pour rembourser ses dettes à un autre israélite. Cette personne-là, et où sa famille, au bout de 50 ans, retrouvait sa liberté automatiquement, à moins qu'il souhaite rester dans l'état où il était. Mais sinon, il pouvait retrouver sa liberté. Ainsi, il n'était en théorie pas possible d'accumuler des richesses. Les richesses revenaient à leur propriétaire initial maximum 50 ans après. C'était des dates qui étaient fixées. Alors je dis bien en théorie, parce que les Israélites, comme nous tous, avaient envie d'accumuler. Et Dieu a dû parfois les reprendre très très sévèrement sur le fait que justement, ils ne respectaient pas ces jubilés. Et ils ne réintégraient pas les propriétés qu'ils avaient achetées, ils ne rendaient pas les propriétés qu'ils avaient achetées, et ils ne libéraient pas les esclaves qu'ils avaient achetés. Mais quoi qu'il en soit, le projet de Dieu était là. Un projet qui limitait au moins l'accumulation de richesses. Notre système dans lequel nous vivons aujourd'hui est très très éloigné de ce projet, évidemment. Aujourd'hui, la société, les hommes, ont inventé le marketing. Alors, je ne sais pas si certains parmi nous travaillent dans le marketing. Cette science, entre guillemets, hein, qui permet de bien vendre ses produits, ou encore de vendre des produits alors que, en fait, personne n'en a besoin, par exemple. Je me permets d'en parler parce qu'ils utilisent des ficelles qui ne sont pas neutres spirituellement. La publicité parfois joue sur des cordes qui ont déjà été utilisées par d'autres. Nous allons voir ça. Alors j'avance là des réflexions personnelles et vous êtes tout à fait en droit de ne pas me suivre dans le domaine. Une des cordes utilisées donc par les publicitaires aujourd'hui est de nous faire croire que nous pouvons vivre, exister par nous-mêmes, ou plutôt parce que nous possédons, que nous sommes ce que nous possédons. Ce qui est évidemment un énorme mensonge, bibliquement. Et donc, une des motivations aujourd'hui, effectivement, de ce monde est posséder. Il y a eu, c'est une petite blague, hein, il y a eu dans le temps, donc c'était au XVIIe siècle, Descartes qui a dit « Je pense, donc je suis ». Et en partie, aujourd'hui, on pourrait qualifier notre société par « J'achète, donc j'existe ». Peut-être que ça parle pour certains d'entre nous. Des batteries entières de chercheurs, de scientifiques étudient comment nous faire acheter, donc acheter ce dont nous n'avons pas besoin parfois. Cela atteint un tel niveau de sophistication et d'étude que, de mon point de vue, on en arrive ni plus ni moins à de la manipulation de masse. Les gens jouent sur ce que l'on ne comprend même pas, sur notre inconscient, pour nous faire acheter ce que nous ne voulons pas acheter. C'est ce que j'appelle vraiment de la manipulation. Et il n'y a aucun moyen pour nous aujourd'hui d'y échapper. Il s'agit d'aller faire ses courses dans un supermarché, tout est pensé pour nous faire acheter. Quoi que l'on ouvre, la télévision, la radio, les journaux, quoi que l'on fasse, dans tous les médias, on nous incite à acheter. Nous allons voir ensemble une petite publicité. Ah, il n'y a pas le son, mais vous devez la connaître, hein, c'est une publicité qui passe actuellement. Voilà, merci. Alors, c'est une publicité parmi énormément d'autres. Hein. Je n'ai rien contre Coca-Cola Zero en particulier. Hein. C'est vraiment parmi d'autres. Mais lorsque l'on pense à cette publicité, on peut voir en parallèle, enfin moi je fais le lien en parallèle, sur un texte biblique. Et je vous demanderai de voir vous-même en fait s'il y a des similitudes. Si on prend le troisième chapitre de la Genèse au verset 6, qui est donc la chute d'Adam et Ève, nous pouvons lire cela, Genèse chapitre 3, verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » La tentation d'Ève par Satan est donc de trois ordres. Bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. En fait, pour être comme Dieu, avait dit Satan. L'orgueil, vivre sans Dieu. Et je vois en fait dans cette pub les trois mêmes ficelles, exactement la même chose. Alors, voilà, en plus ça concerne Coca-Cola, donc on peut parler effectivement du goût. On peut parler de l'esthétisme, de ce qui est beau, parce que tout dans cette pub est beau, hein. Tous les gens sont beaux. Je ne vous verrai jamais une personne normale, hein. Ça c'est pas possible. Et puis il y a dans cette pub le message que, en buvant Coca-Cola, on va multiplier par 10 tout ce que l'on a. Nos relations, donc nos amis, mais également nos richesses. En fait, on va devenir quelqu'un en buvant Coca-Cola. Ce qui est totalement stupide, évidemment, vous serez d'accord avec moi. Et pourtant, c'est le message que véhicule cette publicité. Et on revient en fait à la même chose. Vous pouvez vivre vis-à-vis des autres, aux yeux des autres, vous pouvez être quelqu'un en consommant ce que je vous propose. C'est exactement ce qu'a fait Satan avec Ève. Vous pouvez devenir quelqu'un comme Dieu en mangeant la pomme, enfin la pomme, le fruit interdit. Alors je suis pas en train de vous dire que les publicitaires de Coca-Cola sont des satanistes, hein. Évidemment que non. Je suis juste en train de vous dire qu'en fait ils emploient exactement les mêmes ficelles par lesquelles Satan nous a fait tomber. Consommer, vouloir être quelqu'un. Alors je voulais mettre d'autres publicités parce qu'il y en a une quantité incroyable, mais bon après il faut s'arrêter quoi, hein, évidemment. Voilà, les publicitaires jouent sur nos faiblesses qui sont bien connues pour nous faire consommer. Nous pourrions parler également de ce qu'est la réussite dans notre société. Lorsque nous disons que quelqu'un a réussi, nous pensons à quoi? Pardon? Je vous entends pas, je suis désolé. Réussite sociale, qui est? Eh ben oui, c'est quand même totalement crétin. Enfin non mais, la vie ne se limite pas à l'argent, et pourtant quand nous parlons de réussite, et moi le premier, hein, je dis oui, ce gars-là, il a réussi, il a de l'argent. Je veux dire, on est dans un système qui nous a totalement façonné avec ses valeurs. Et donc j'en arrive moi à dire, alors je sais que c'est débile, cette personne a réussi, elle a de l'argent. La vie est bien plus riche que ça. Il y a bien d'autres paramètres et d'autres dimensions dans notre vie dans lesquelles nous pouvons réussir et qui sont bien plus importantes que l'argent. Bon, mais on ne va pas continuer là-dessus. Enfin, il y aura d'autres choses à dire, mais voilà. Un dernier point avant de parler de l'utilisation concrète de nos ressources financières. Nous vivons dans une société où l'humanité, enfin les gens en général, hein, surtout en Occident évidemment, nous essayons de nous garantir contre tous les problèmes de la vie, toutes les surprises financières également. nous contractons un nombre incroyable d'assurances contre toutes sortes d'événements. Nous cotisons pour la retraite, pour le chômage, pour les maladies. Alors, je ne dis pas que tout ça est mauvais, je ne dis pas qu'il ne faut pas se prémunir des problèmes de la vie. Mais il y a un risque, en fait, d'oublier que Dieu est notre secours. Et c'est ça le message de Dieu dans la Bible. Je suis votre secours. Et que notre relation à l'argent, en fait, devrait justement être basée sur cette confiance que nous avons en lui. Nous pouvons lire cela dans le livre, la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 5 à 6. Paul écrit ça, « Que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez. » Il recommence, donc il redit la même chose. Et il continue, « Car le Seigneur lui-même a dit, « Non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Si bien qu'en toute assurance, nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours. » Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? Dieu nous demande d'avancer dans la confiance en lui. Il y a là un autre élément essentiel dans notre rapport avec l'argent. Dieu a promis de prendre soin de nous. Il nous a promis que nous ne manquerons pas de l'essentiel. Je le rappelle, la nourriture, vêtements et on va dire un toit. Aussi, c'est aussi par notre foi en Dieu que nous serons capables de nous détachés de tout cela. Alors, comme chrétiens, nous sommes appelés à nous donner à Jésus, évidemment, à nous consacrer à lui. Vous l'avez maintes fois entendu. Se donner à Jésus signifie également lui redonner une partie de ce qu'il nous a donné, de nos ressources. Alors, nos ressources, dans un sens déjà large, on peut tout y mettre. Il y a notre temps, évidemment. Il y a notre force physique, parfois dont on a besoin à l'église. Petit message. Il y a nos talents et nos savoir-faire. Et il y a également nos moyens matériels, dont l'argent. Et puis ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être notre voiture, notre maison que nous pouvons mettre à disposition parfois pour l'Église. Nous sommes tous concernés en cela. Dieu nous a tous pourvus de ressources et il attend de chacun d'entre nous, de tous également, en reconnaissance, un retour. Tout le monde a quelque chose à donner. Pour l'Église, évidemment, et où pour des personnes qui en ont besoin autour de nous. J'ai du mal à faire la différence. Hein. Il est très très important de comprendre cela. Un chrétien qui ne partage pas, qui ne donne rien, a vraiment quelque chose à apprendre, à découvrir, vraiment. Également avec l'argent, puisque c'est notre sujet de ce matin. Alors l'idée n'est surtout pas d'établir des règles rigides, hein. Encore que l'on puisse librement choisir une marche à suivre. Se donner une ligne de conduite dans le domaine. Alors Dieu, pour les Israélites, avait établi une règle qui était très claire, c'était la dîme, 10%. Voilà. 10% de tout ce que vous avez, de tout ce que vous gagnez, que ce soit en bétail, en céréales, tout ce que vous voulez, 10% devait revenir au temple, donc en fait, pour le service de Dieu. Ça peut servir de base de réflexion, mais ce n'est pas quelque chose, me semble-t-il, qui doit être rigide, encore qu'on peut s'en servir. Mais ça doit au moins servir comme commencement de réflexion. Mais plutôt que de définir une règle, l'idée est bien plus pour chacun de prendre conscience de cet appel que Dieu nous donne de s'éloigner de l'argent, de l'amour de l'argent et de l'amour des richesses. Parce que nous ne quitterons pas cette terre avec quoi que ce soit, encore une fois, et parce que Dieu est notre secours pour tout ce qui concerne également notre richesse. Nous avons encore peut-être à découvrir la joie qu'il y a à donner et à partager. Vraiment, donner et partager, ce n'est pas une contrainte lorsque nous avons compris ce que c'est et lorsque nous vivons librement. Donner et partager est une joie. Si toutefois ces questions évoquent pour vous des choses un peu difficiles, si toutefois vous sentez à l'intérieur de vous des résistances avec tout ce que je suis en train de vous dire là, des choses qui vous freinent à accepter, alors j'aurais un seul conseil à vous donner, mettez ça entre les mains de Dieu. Pour voir quel est le juste milieu. Pas nécessairement tout donner pour juste regarder avec la stricte nourriture et les stricts vêtements. Mais vous avez probablement un chemin à faire en la matière malgré tout. Mettez ça entre les mains de Dieu par la prière et il vous guidera. Il clarifiera vos pensées. Peut-être vous mettra-t-il sur votre chemin une personne qui pourra vous aider, discuter avec vous pour vous avancer dans votre réflexion. Mais si sincèrement nous nous tournons vers Dieu, pour lui demander des éclaircissements à ce sujet, et ne nous laissera pas dans nos questions. Et nous pourrons alors vraiment, librement, en toute liberté, partager ce que nous avons, donner une partie de ce que Dieu nous a donné, de nos ressources, pour sa plus grande gloire et pour notre plus grande liberté.